Donc bonsoir à tous, excusez-nous pour ce petit dérangement, ça ne marchait pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons parler des noyaux qui changent de look. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Donc dans l'exposé, nous parlerons d'abord de le type de noyau que l'on rencontre dans les galaxies. On a bien vu déjà un petit peu le type 1, 2. Il y a aussi des Seyfert 1, 2, raies étroites. Ça peut paraître bizarre, narrow line, mais c'est un autre look. Et puis, très curieusement, on pensait qu'il y avait d'un côté Seyfert 1, Seyfert 2, ça ne changeait jamais. En fait, non, il y en a qui passent de 1 à 2 à quelques dizaines d'années d'intervalle. Donc ça va nous faire comprendre ce que c'est vraiment. On va essayer de trouver les causes. Il y en a aussi des quasars à redshift qui changent de look. On va essayer d'expliquer peut-être les raisons avec la polarisation et la modélisation. Alors déjà, je reviens pour bien préciser quels sont ces types d'AGN. Donc type 1 et 2, Seyfert 1, Seyfert 2, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, une des caractéristiques de la Seyfert 1, ce sont des raies larges. On a déjà appelé ça Broad Line Region, BLR, et ces raies larges, ce sont les raies de Balmer, d'hydrogène, H-alpha et H-bêta. Et puis, pourquoi les raies de Balmer ? Parce que ce sont des raies permises qui sont là lorsqu'on est dense, près du noyau, près du trou noir. Les raies sont très larges parce que la vitesse, c'est 20 000 ou 30 000 km par seconde, donc c'est près du trou noir, on va très très vite, donc c'est des raies larges. Et puis les raies étroites, alors ce sont des raies interdites, O3, N2, etc. Et interdites parce qu'en laboratoire, lorsqu'il y a une grande densité, eh bien, elles se désintègrent par collision, mais pas par rayonnement. Le coefficient d'Einstein est trop faible. Donc ces raies, on ne les voit que très loin du noyau, lorsque la densité est faible, et qu'on peut se désintégrer par rayonnement, et non pas par collision. La densité est tellement faible qu'il n'y a pas de collision. Et donc ces raies sont raies étroites. Pourquoi ? Parce qu'on est très loin du noyau et donc la vitesse n'est pas aussi grande. Donc on a ce genre. Et alors une autre caractéristique de la Seyfert 1, du type 1, c'est un continuum très fort ici dans le bleu qui vient du disque d'accrétion. On a une grosse, on appelle ça Big Blue Bump ou grosse bosse bleue ici, ça c'est dans le bleu. Comme on voit la longueur d'onde en angström, ici c'est le bleu. Et donc on a un continuum alors que là on ne le voit pas. Alors pourquoi ? Tout de suite, on a pensé à ça, c'est le type de Seyfert 2. Vous voyez, les raies sont étroites et on ne voit pas le disque d'accrétion. Donc on a pensé tout de suite qu'il y avait quelque chose qui nous cachait le centre. Le centre, c'est là où il y a les raies très larges et où il y a le continuum qui est dû au disque d'accrétion. Donc si on prend cet objet et qu'on met de la poussière, donc un tore poussiéreux qui cache toutes ces raies larges et puis le continuum, eh bien, on a ce qu'on appelle une Seyfert 2, d'où le petit diagramme que vous avez déjà vu et qui nous dit qu'on tend à universaliser tous ces classements, tous ces types, en disant eh bien, on a un trou noir ici, on a un disque d'accrétion, on a une zone de raies très large, BLR, qui fait moins d'un parsec, hein, pour donner des idées, et puis on a des raies excitées, de rayonnisées, qui sont à raies étroites, mais beaucoup plus loin, ici ou là. Et donc, lorsqu'on regarde à travers ce tore de poussière qui cache le noyau, eh bien, on voit un type de Seyfert 2 obscurci par la poussière. Quand on a une ligne de visée qui passe là, eh bien, on voit le noyau, on voit les désaccrétions, le continuum, on voit les raies larges et tout ça. Donc voici ce qu'était le schéma, le paradigme de la différence entre les types. C'est à peu près la même chose, mais on obscurcit les Seyfert 2 par les Seyfert 1 en Seyfert 2. Alors parfois ça marche. C'est pour ça qu'on le conserve, ce schéma, on le conserve. Ça marche au moins dans la moitié des cas. Alors, comment on le sait que ça marche ? Par exemple, les tests de polarisation, on a une galaxie typique d'une Seyfert 2, qui est une galaxie presque vue de face, hein, spirale, comme ceci. Et au centre, on sait que le disque d'accrétion, il est vu par la tranche. En fait, l'inclinaison du disque d'accrétion et la galaxie n'a rien à voir, c'est au hasard. Il ne se voit pas, en fait, il y a du gaz qui tombe avec un moment angulaire quelconque. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, lorsqu'on regarde la lumière réfléchie, par exemple, par une région d'électrons ionisés ici, là, eh bien, la réflexion polarise la lumière. Il n'y a qu'une seule des polarisations qui est transmise. Et vous voyez que ici, donc, lorsqu'on regarde le flux total, vous voyez l'intensité 400 en flux arbitraire. Et lorsqu'on regarde le flux polarisé, eh bien, on n'a plus que 1%. et on voit l'arrêt large. Donc ça veut dire que on voit finalement le centre, le disque d'accrétion, les zones à arrêt large, on les voit par réflexion. Donc ça veut bien dire qu'on a une Seyfert 1 cachée, en quelque sorte. On voit la même chose ici, par exemple, Mark Ariane 348, qui est aussi une galaxie spirale, on voit en vert l'hydrogène atomique. Donc au total 15 en unité arbitraire, et puis ici en polarisation encore 1%, on voit que les raies larges se voient. Donc on voit bien que par réflexion, on peut contourner le tore de poussière qui nous cache la Seyfert 1. Donc c'est bien une Seyfert 1 cachée qui donne une Seyfert 2. Mais pourtant, il y a des Seyfert 2 qui sont intrinsèquement différentes et qui n'ont pas de raies larges. Et c'est ça qui va être le... très souvent, il n'y a que 50% des Seyfert 2 qui sont des Seyfert 1 cachés. Alors pourquoi ? Peut-être il y en a un petit peu moins, comme le proposait Heisler, parce que ça dépend aussi de l'extension des polariseurs. Ici, par exemple, ce qui diffuse le rayonnement de la BLR serait uniquement les particules en rose ici. Donc lorsqu'on est ici, on ne verra rien. On est toujours caché. Donc il y a un tout petit peu seulement qu'on pourrait voir. Et puis, il y a aussi une relation avec la température de la poussière. Ici, on a exagéré un petit peu la taille du tore de poussière. Si on a de la poussière, elle est très chaude près du trou noir qui émet beaucoup de rayonnement. Elle est froide. Et normalement, si ce schéma d'unification marche, on devrait avoir moins d'extinction. Si on a moins d'extinction, elle devrait être plus chaude. Et là, en effet, il y a une association avec l'infrarouge qui est observée. Mais il existe quand même des différences intrinsèques, c'est-à-dire que la Seyfert 2, en général, elle a plus de gaz que la Seyfert 1. Alors ça, ce n'est pas caché ou pas, c'est dans le disque général de la galaxie, et il y a plus de formation d'étoiles. Alors il y a aussi, et c'est très difficile à déterminer, parce que il y a, lorsque la Seyfert 1 est plus lumineuse que la Seyfert 2, il y a deux choix possibles. Soit elle est intrinsèquement plus lumineuse, ou c'est simplement que la Seyfert 2, elle est cachée, donc on ne voit pas toute la lumière, et c'est pour ça que c'est le même objet, mais caché. Et c'est une possibilité, mais une possibilité aussi, c'est que la luminosité de la Seyfert 1, elle est intrinsèquement plus forte, et elle va évaporer le tore de poussière. Il y aura beaucoup moins de poussière dans une Seyfert 1 que dans une Seyfert 2. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèquement. Alors, on le voit ici, par exemple, que la fraction de Seyfert 2 par rapport à la luminosité, elle tombe énormément. Vous voyez qu'à faible luminosité, on n'a pratiquement que des types 2 et à forte luminosité, des types 1. Alors vous voyez que c'est un petit peu dégénéré, soit c'est parce que les 2 sont cachés, soit parce qu'elles sont intrinsèquement plus faibles. Et puis, est-ce qu'elle varie en fonction de redshift ? Alors là, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, puisque quand on regarde en apparence, le type 1 sont plus lumineux. Or, quand on regarde loin, on a un biais, on ne regarde que les plus lumineuses, les plus faibles ne sont pas vues. Donc finalement, on trouvait plus de type 1 à grand redshift. Mais on sait qu'aussi à grand redshift, l'univers est beaucoup plus gazeux, il y a plus de gaz parce que les étoiles ne sont pas encore formées, elles n'ont pas consommé le gaz, et donc il y a aussi plus de gaz. Donc les deux se compensaient. Et quand on corrige bien du biais de Malmquist, on n'observe que les objets les plus lumineux, eh bien on s'aperçoit que la fraction de type 2 croît en fait avec le redshift et non pas constant. Ça, il faut vraiment corriger des biais pour le voir, et ça correspond bien à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'il y a plus de gaz autrefois qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les galaxies ont consommé leur gaz en étoiles. Alors, il y a aussi une troisième classe, qui apparaît comme une exception, les Seyfert 1 à raies étroites. Alors, ça peut paraître un paradoxe, puisque un des critères d'une type 1, c'est d'avoir des raies larges. Mais il y a d'autres critères, qui est justement le continuum. Par exemple, ce continuum-là, ou la raie du fer, elle est aussi une caractéristique des types 1. Donc on a en effet des types 1 à raies plus ou moins étroites, mais qui ont un continuum, et donc on les appelle quand même type 1. Car on a l'impression qu'on voit, si on voit le continuum, c'est qu'on voit le disque d'accrétion. Donc il n'y a pas de raie large, mais il y a quand même un disque d'accrétion. Alors il y a parfois aussi un spectre radio, donc un jet relativiste, qui émet des gammas. Et on interprète cette classification de raies étroites de type 1 comme des trous noirs qui sont en voie de croissance. C'est des trous noirs qui ont un certain retard. Par exemple, après une fusion de galaxies, vous avez des trous noirs qui sont en train de fusionner et qui reçoivent beaucoup de gaz et qui vont rattraper leur retard. Vous voyez ici, par exemple, il y a une corrélation très forte entre la masse du bulbe et la masse du trou noir. Eh bien, c'est cette catégorie-là, elle est de ce côté-là, alors que les CFR1 normales sont plutôt à plus haut trou noir. Donc ça veut dire qu'elles ont un trou noir plus faible pour leur même masse. Ici, on le voit aussi, vous avez deux choses en fonction de la luminosité optique, la masse du trou noir. On a soit celle qu'on appelle de faible excitation, low excitation, qui sont ici. Et ici, vous avez la luminosité d'Eddington, qui est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc, on peut soit être vraiment accrété à un taux très fort, donc une forte luminosité, donc ce sont les hautes excitations, et puis les faibles. Et les NLS1, ici, sont en rouge. Elles ont un taux d'accrétion qui est presque égal à celui d'Eddington, donc elles rattrapent, elles ont beaucoup d'accrétion par rapport aux autres. Donc finalement, on a une catégorie de galaxies qui accrète beaucoup et qui va rattraper un peu son retard en masse du trou noir. Alors là, on va maintenant parler de celles qui ont fait la surprise, en fait, et qui montrent qu'on peut changer de type assez rapidement. Assez rapidement, c'est tout est relatif. Cette galaxie MRK 1018, on l'a beaucoup observée ces derniers temps avec le spectromuse. Alors vous voyez une petite idée de ce qu'est le spectromuse au VLT, hein, de l'ESO au Chili. C'est, on dirait, un nœud de vipère. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de spectros. Chaque pixel fait un spectre du point que vous voyez. Il y a 90 000 spectres dans cette galaxie. Alors cette galaxie, quand on va étudier et décrire entièrement, c'est une galaxie barrée. Ici, c'est l'image de Muse, justement. Et elle a des perturbations autour. On a l'impression qu'il y a une fusion entre galaxies. Alors, comment fonctionne ce spectro pour avoir un spectre à trois dimensions, en quelque sorte? Il découpe l'image en bandes, qu'on appelle un slicer, fait des slices, en fait des bandes, comme ceci. Et chaque bande, chaque pixel de chaque bande va être amené par des fibres optiques vers un disperseur, un prime, qui va faire le spectre. Donc on va avoir un spectre vraiment en chaque point. Alors voici les spectres qui sont obtenus. Alors ce qui a été très surprenant, c'est que c'était une CFR presque 2, alors on appelle ça 1.9, ça veut dire que la raie H-alpha n'est pas complètement étroite, elle est un tout petit peu large. Donc il y a plusieurs types, on a des degrés, mais c'est presque une CFR 2 en 1975. Et puis, en l'an 2000, elle était une CFR 1, et quand on l'a observée en 2015, elle est redevenue une CFR 2. Elle est restée 30 ans une CFR 1, et puis elle est redescendue. Alors, on voit ici dans cette image qu'en effet, non seulement il y avait une barre au centre, mais vous voyez qu'il y a des queues de marée et puis des boucles qui sont un petit peu le témoin d'une perturbation de marée, soit une fusion entre deux galaxies. Alors certains ont interprété ce changement de cette oscillation entre les types par une fusion entre les deux trous noirs. Vu qu'ici il y a une fusion entre deux galaxies, les deux trous noirs qui sont au centre de chaque galaxie vont se rapprocher et progressivement fusionner. Alors, s'il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre, si une galaxie est plus petite que l'autre, par exemple un tiers de la masse, le trou noir aussi, et on va avoir une fusion très dissymétrique. Par exemple, vous avez des ondes gravitationnelles dans ce schéma qui sont émises plus dans cette direction, c'est là où c'est plus clair, et donc l'ensemble va reculer. Vous avez beaucoup d'énergie qui part, des moments qui partent dans ce sens, vous allez reculer, donc vous allez engendrer une oscillation qui va peut-être, et on va voir comment c'est possible, d'interpréter ces changements de look par ce mécanisme. Alors ce changement de look, vous voyez ici, en 2015, avec Muse, vous n'avez plus que des raies étroites. La raie H-bêta, ici, elle est vraiment réduite à ce petit pic. Ici, ce sont les raies de O3, les raies étroites, mais cette raie très large est devenue ici. En 2000, elle était le spectre noir. Alors vous voyez qu'à H-alpha, elle a rétréci, mais elle n'est pas complètement étroite. Donc c'est pour ça qu'on a une CFR de type 1.9. Et de plus, ces raies étroites, elles ne vont pas varier, hein, comme on l'a décrit. Elles sont très loin du trou noir, donc à des distances 100 parsecs, 900 parsecs, 1 kiloparsec. Donc la variabilité ne peut pas être de 30 ans, mais peut-être des centaines d'années, il faudra attendre si vraiment elle se propage jusque-là. Donc ce n'est pas possible. Donc les raies étroites nous servent de calibrateurs, en fait. Elles sont constantes. Et on voit, par exemple, là c'est plusieurs dates, vous voyez que la dernière date, c'est la raie H-bêta, elle est toute étroite, et en fait, elle est dissymétrique. On a finalement retiré toute la partie à droite, c'est-à-dire la partie qui est décalée vers le rouge. Ce n'est pas symétrique du tout. Alors là, il va falloir interpréter tout cela. Vous voyez, quand on fait la différence entre l'état en 2015 et l'état en 2000, on a la courbe verte, qui est la différence des spectres. Évidemment, il n'y a rien pour les raies étroites qui n'ont pas varié, mais la variation entre les deux époques, elle est vraiment décalée vers le rouge. D'où pourquoi ? Alors, on va voir que parfois, dans certaines époques, ça va être décalé vers le bleu. Donc, on a l'impression, en effet, de quelque chose qui oscille. La raie devient asymétrique. Ici, vous voyez, en effet, les quatre époques différentes, donc les deux changements de 1 à 2 et de 2 à 1. Alors, est-ce que la BLR, la zone à raie large, est complètement dissymétrique ? Est-ce qu'elle n'est pas à l'équilibre ? Alors, tout ça, c'est des hypothèses qu'on peut faire. Alors voici ce qui est arrivé en plus du changement de look. Elle a changé énormément de luminosité. Vous voyez qu'elle est restée 30 ans. Alors ici, c'était le type 2, faible luminosité. Pendant 30 ans, elle a eu une grande luminosité. Et puis, en 2015, tout d'un coup, elle tombe, la luminosité, par un facteur. Ça dépend de la longueur d'onde. Ici, on a une longueur d'onde bleue, rouge. On a un certain retard sur certaines longueurs d'onde, puisqu'on n'a pas la même distance du centre. Mais elle chute d'un facteur 5 à 16. Donc, en effet, le type 2 est moins lumineux que le type 1, et ça, c'est intrinsèque. On pense que c'est intrinsèque. Alors, certains ont proposé, tout d'un coup, cette regain de luminosité pendant 30 ans, c'était dû à une étoile qui est tombée dessus. Alors, vous savez qu'il y a des événements où l'étoile peut tomber très proche du trou noir, et par les effets de marée, le cisaillement de marée, l'étoile est détruite. On appelle ça un tidal disruption event, ça veut dire qu'on détruit complètement l'étoile, et cette étoile redevient gaz, puisqu'une étoile ce n'est que du gaz, donc elle va redevenir gaz et tourner autour du trou noir, tourner dans le disque d'accrétion et finalement être avalée. On prédit une décroissance de luminosité qui a cette forme-là, qui a une loi de puissance dans le temps, en t-5/3, et en fait c'est pas du tout cette dépendance en temps qu'on a observée pour Mark Arian 10-18, donc c'est certainement pas ce genre d'événement. Enfin, il y en a certains où ça peut être le cas, mais pas pour cette galaxie-là. Alors, on pourrait se demander aussi, après tout, puisque la CFR2 était une CFR1 cachée, est-ce que c'est pas simplement qu'il y a un nuage de gaz qui est passé devant le noyau et qui l'a fait changer de look ? En fait, on ne pense pas. Alors, pourquoi ? C'est que si un nuage passait, on aurait une absorption différentielle de chaque longueur d'onde, et surtout pour les rayons X. Alors ici, on a un spectre de rayons X. Vous avez des X mous, qui sont compris entre 1 et 2 et 10 keV, puis les X durs. Et le spectre ne change pas, il est homothétique, mais on n'a pas absorbé les X mous. Normalement, on devrait absorber tous les X mous et garder les X durs, pour avoir un petit peu d'absorption. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit seulement une baisse de la luminosité, mais pas d'une absorption sélective des mous par rapport aux durs. Alors, on aurait pu penser, en effet, qu'il y ait des nuages. On peut essayer de faire le calcul. On a le choix, en fait. Soit le nuage est assez loin, il pourrait être très petit, et en 30 ans, il faudrait qu'il passe devant le noyau. Alors, s'il a une vitesse de 300 km par seconde, avec cette taille-là, ça pourrait marcher. S'il est beaucoup plus proche, il aurait une vitesse de 3000. Et en effet, ça marcherait, mais avec un nuage plus gros, et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez le choix. Mais dans tous les cas, on devrait absorber les rayons X, et ce n'est pas ce qu'on voit. Alors, il y a un test de polarisation, et sans doute Frédéric Marin, dans le séminaire, va en dire plus. Donc je ne ferai que mentionner que ça, le test de polarisation confirme le fait qu'il n'y a pas d'absorption, parce que comme on l'a vu pour NGC 1068 et... on a vu que par réflexion, on polarisait. Donc s'il y avait une extinction, on devrait voir de la polarisation. Et ici, on a essayé de calculer le degré de polarisation et il est nul. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'absorption. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on a on a vu une décroissance, donc la luminosité. Et il y a aussi dans la raie Lyman alpha, qui est une raie qui a un coefficient d'Einstein très fort pour l'absorption, on a des nuages d'hydrogène qui sont devant le noyau et que l'on voit absorber. Et on s'est aperçu tout d'un coup qu'il y a, dans la période 2016, il y a une absorption supplémentaire. Donc il y a quand même un nuage qui est passé devant et qui a créé cette absorption. Les autres sont à peu près identiques et proportionnels aux mothétiques. Alors celui-là, il n'est pas au centre. Il a une vitesse qui vient vers nous. Il est décalé vers le bleu de 700 km. Donc on pense que c'est peut-être un outflow. C'est possible que dans l'activité de ces noyaux, il a rejeté du gaz. Donc, on aurait pu penser aussi qu'il y avait un trou noir binaire. Hein, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu. Hein, on a une galaxie qui ressemble à un reste de fusion. Et on a un exemple de trou noir binaire. C'est OJ-287, donc je crois qu'on en a parlé un jour, qui est un trou noir qui a une période de rotation. Les deux trous noirs tournent avec une période de 12 ans, donc c'est tout à fait comparable avec celle de 30 ans, il faut qu'elle soit un peu plus loin. Et puis, le petit trou noir rentre dans le disque d'accrétion du gros trou noir et on a des sursauts à chaque fois et on l'a suivi pendant longtemps. Mais il me semble qu'ici, on n'est pas vu cette binaire. Alors, la variation de ce Lyman alpha, hein, c'est qu'on le voit qu'il a beaucoup baissé en flux et comme je disais, cette nouvelle absorption qui nous fait penser qu'il y a un outflow. Alors, il y a quand même ici, vous voyez, l'émission, elle est celle d'un corps noir. C'est l'émission thermique d'un disque optiquement épais. Alors, l'hypothèse de Kimetal du trou noir binaire qui recule, c'est un scénario qu'il a développé et qui pourrait finalement être bien si on a une trajectoire entre les deux trous noirs qui est très elliptique, une excentricité de la roue 95. Le foyer est ici, donc l'autre ici, et il a essayé de regarder si ça collait avec les observations. Donc ça collerait à peu près, mais il faudrait attendre l'autre période, donc en 2028-2030, pour voir si sa prédiction est vérifiée ou non. Mais ça explique que parfois vous avez un excès d'un côté en bleu et puis un excès en rouge de l'autre côté. On a une oscillation de ces deux trous noirs. Alors, on a pensé qu'en 2017, évidemment, cet objet, tout le monde le regarde, et en 2017, il semblait se réveiller. Ici, c'est les dates, hein, 2017, ici, les rayons X. Après la chute qu'il y avait eu jusqu'en 2015-2016, tout d'un coup, il semblait se réveiller, mais non, il s'est retombé, donc c'était une fausse alerte. Donc, il n'y a pas eu de rebond, de changement de look, mais juste une toute petite variation. Donc, au début, on avait le bleu, puis ensuite le vert, et puis ça a remonté un petit peu au rouge. Mais dans tous les cas, le spectre est homothétique et on n'a pas d'absorption. En tout cas, ce n'est jamais un nuage qui absorbe. Alors, il y en a d'autres hein, qui sont de même type. Vous avez Mark Ariane 590 qui a un déclin, cette fois-ci, énorme, d'un facteur 100. Vous voyez ici, en bleu cyan, là, tout d'un coup, elle redevient 2013-2014 à une luminosité presque négligeable. Donc, elle a changé rapidement de CFR1 ici à CFR2. Disparition des raies larges, de la BLR. Et ça ne peut pas être l'obscuration cette fois-ci, parce qu'il y a un rapport tellement grand, 100, que si toute la lumière, si la BLR existait encore à cette époque, elle devrait chauffer la poussière qui l'éteint. Et on devrait le voir en infrarouge avec un grand flux cette fois. Et on ne voit rien du tout. Donc la lumière, elle a vraiment disparu. Elle ne se retrouve pas dans une autre longueur d'onde sous forme de poussière chauffée. Donc là, on est sûr que ce n'est pas du tout l'obscuration. Par contre, c'est sans doute un changement de... Donc ici, pardon, je voulais dire que c'est un changement du taux d'accrétion et le trou noir étant de 5 10 7. Donc là, on peut le suivre et on voit bien qu'en 1973, donc on avait une raie étroite. Tout d'un coup, on a une raie large et puis un flux beaucoup plus grand. Alors là, curieusement, la raie étroite a l'air de varier un petit peu aussi, pas autant, mais un peu varié, ce qui veut dire qu'il y a sans doute des nuages de cette raie étroite qui sont assez proches peut-être un parsec ou quelque chose comme ça, pour pouvoir varier. Et puis ensuite, tout d'un coup, le Hbeta redevient, en 2013, une CFR2 sans ray large. Donc voici un petit peu comment a diminué le flux de cette galaxie d'un facteur 100. Donc un taux d'accrétion de, il y a 40 ans, de 1 ou 2 masses solaires, ça suffirait pour créer cette énorme ray de la BLR maximale et une période de 8 ans. On a regardé en radioastronomie, voir si on voyait quelque chose qui correspondait à ce sursaut. Et en effet, avec EVN, c'est le European Velal BI Network, c'est-à-dire on fait de l'interférométrie à grande base avec des télescopes européens. Et donc on peut avoir, ici vous avez 10 milliards de secondes de résolution, donc on peut résoudre ce qui se passe près du trou noir. Et on voit qu'il y a un petit jet qui a été créé, qui fait à peine un parsec, donc ce n'est pas une radiosource très très grande, mais qui correspond, si la vitesse est à peu près 0,1 fois la vitesse de la lumière, à ce qui s'est développé depuis cette durée de vie de cette source. Donc le sursaut de CFR1 aurait créé ce jet, donc ça correspond. Et il y a aussi un temps de poussière qui varie. Alors ici vous avez en visible et en infrarouge, on voit que la variation est corrélée mais avec un petit délai, et on s'est aperçu que le temps de poussière avait un certain rayon intérieur qui était en 2004 de 32 jours-lumière, donc là, lorsque la période, la luminosité était basse, tout juste à peine plus grande que la BLR qui fait 26 jours-lumière, et puis tout d'un coup, lorsque le noyau se réveille et émet beaucoup de luminosité, eh bien, la poussière est évaporée, elle est sublimée, et le rayon interne fait 70 jours-lumière, donc il est un petit peu troué, quoi. On l'a un petit peu avalé. Alors ceci est très très intéressant. En à peine 4 ans ici, on a un temps de poussière qui s'évapore et un temps de poussière qui se reconstruit. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout le gaz et la poussière qui ont bougé, parce que les temps seraient beaucoup plus longs. Simplement, c'est qu'ils sont évaporés. Et puis, le carbone, le silicium qui forme la poussière, s'est recondensé lorsque le noyau s'est éteint. Alors, on le voit bien ici, par exemple. Vous avez, en fonction des jours, ici, donc des années, en fait, et vous avez le rayon du tor de poussière, le rayon interne. Alors, lorsque on est en CFR1, donc le noyau est très brillant, on a 70 jours-lumière, et puis ensuite, lorsque le noyau s'éteint ici, vous voyez, la luminosité tombe, et bien tout d'un coup, le tor de poussière se reconstruit. Alors, la température de sublimation, c'est 1500 degrés, ça veut dire que la température de sublimation, vous l'avez maintenant beaucoup plus proche du noyau, puisque le noyau, il est beaucoup moins intense. Il devient de l'ordre de 30 jours-lumière. Donc vous voyez que la poussière aussi, et c'est ça qui complique l'interprétation entre CFR1 et CFR2, c'est que dans l'état CFR2, on a plus de poussière, car on ne sublime pas toute la poussière qu'il y a autour. Donc il y a ces deux aspects qui jouent. Alors dans cette galaxie en particulier, il a été possible de voir l'environnement. Il y a beaucoup de gaz, il y a un noyau de gaz, il y a sans doute une galaxie barrée avec des anneaux à la résonance. On a fait le spectre à la fois de la cinématique des étoiles, vous avez une courbe de rotation très caractéristique avec une dispersion, et puis le gaz, qui est un anneau de gaz. On voit qu'il y a beaucoup de gaz qui est en réservoir d'une activité peut-être future qui va tomber sur le noyau et refaire un changement de look de CFR2 à CFR1. On voit qu'il y a en effet des variations intrinsèques entre ces deux types. Ce n'est pas seulement qu'une CFR2 est une CFR1 cachée par la poussière. Il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres aussi, par exemple NGC 1566, qui est connue depuis très très longtemps, car c'est une galaxie très proche, très observée. Elle est passée donc d'une CFR presque 2 à une CFR1, et revenue aussi. Et ce qu'on voit dans la dernière variation, en 2018, lorsqu'elle est redevenue CFR2, elle est retombée en énergie, on voit qu'il y a en rayons X ici des sursauts. Sursauts, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc elle descend régulièrement, mais avec des sursauts. Et ce qu'on voit aussi, non seulement en rayons X, mais aussi en UV, qui correspondent à un certain retard, en U. Et puis en BV, on le voit de moins en moins. Pourquoi ? Parce que ces longueurs d'onde correspondent à des distances plus grandes du noyau. Donc tout d'un coup, elles sont atténuées. Donc on a cette montée en quelques mois, et puis les sursauts, ça fait 10-20 jours. Alors, ce sont des caractéristiques générales, en fait, une température, une montée, une descente qui est de l'ordre de l'année. Et puis, on a vraiment cet état-là, c'est-à-dire un tore de poussière qui est très, très fourni, qui, lorsque le noyau accrète de la matière, donc il devient très, très brillant, il même repousse par un vent, et puis aussi, il écarte la poussière, il sublime la poussière, on a tout d'un coup moins de poussière. Donc l'obscuration peut être diminuée lorsqu'on est un Sépharctin de façon intrinsèque. Alors évidemment, il y a aussi les variations de Hβ sur Hα, parce que ce rapport-là, c'est un rapport de Balmer qui montre que Hβ qui est dans le bleu est beaucoup plus éteint que Hα, donc on a aussi la confirmation qu'il y a plus ou moins de poussière avec ce rapport. Mais ça ne correspond pas à la montée et la descente ne correspond pas toujours à ces étoiles qui sont avalées. Alors, le mécanisme qui a été proposé, par exemple par Skinowska, si j'arrive à le dire, c'est que lorsque vous baissez en luminosité, et on en a déjà parlé un petit peu, on a un disque qui devient plus mince, il y a moins de gaz qui est accrété, et le disque est un peu dilué et il ne peut plus rayonner de façon efficace. Normalement, lorsqu'on est très très près de la luminosité d'Eddington, donc on a une très forte accrétion de gaz, on a une façon de rayonner avec un disque d'accrétion très mince et très optiquement épais qui évacue toute l'énergie. Lorsque ce n'est plus le cas, à ce moment-là, on a près du trou noir, on a une région qui chauffe beaucoup, c'est ce qu'on appelle ADAF ici, et qui prend la place du disque. En fait, ça va progressivement refaire reculer le disque. Et cette région est un peu une couronne, en quelque sorte, une couronne qui permet de faire donner de l'énergie aux X-mou, qui sont émis par le disque de façon thermique, et par quantum inverse, avoir des X durs. C'est pourquoi, lorsque la luminosité du trou noir descend, on a des X plus durs que lorsque la luminosité est très haute. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà bien compris. Alors ici, ce qui prétend les auteurs, c'est que cette région très près entre la couronne, là ici, et le disque qui est stable, lui, eh bien, c'est une région très instable. Donc ils ont simulé un petit peu ce genre d'instabilité, ça dépend un peu de la viscosité, de la taille de cette région, delta R, etc. Et on arrive à reproduire quelque chose qui varie avec des petites échelles de temps, puisque la zone est petite, hein, delta R, même si on est assez loin du noyau. Alors, l'état de la polarisation, je mentionnerai juste, parce que je pense que Frédéric Marin, tout à l'heure, va en dire plus, mais c'est assez intéressant, car ça peut nous prédire un petit peu, selon l'angle à laquelle on voit, par exemple, le Markarian 10-18, on peut prédire que lorsqu'on a un flux très fort, et puis tout d'un coup, on baisse de flux, on devrait trouver, juste après, un écho qui nous dit que le pourcentage de polarisation sera détectable, quelques pourcents. Et donc, l'angle de polarisation, ici, correspond à cette période-là. Donc, c'est une prédiction très intéressante qui nous permet de comparer un petit peu avec les modèles que l'on prédit. Donc, ici, c'est donc sorti du papier de Frédéric Marin, où l'on voit le disque d'accrétion, le tore de poussière, et puis la région BLR avec le vent qui est émis par le trou noir qui a une luminosité proche d'Eddington. Et selon l'angle de lequel vous le voyez, vous avez plus ou moins de cette polarisation en écho. Donc je laisserai Frédéric le décrire un peu plus en détail. Donc comme je vous le disais, jusqu'à présent, on a donné des exemples de noyaux actifs assez proches qui n'étaient que des séphertes. Dans l'univers proche, on n'a pas de quasars très puissants. Maintenant, lorsqu'on s'éloigne un petit peu en redshift, on a des quasars qui aussi, eux, changent de type. On ne parle plus de séphertes, on parle de AGN de type 1, de type 2. C'est un travail de Lamassa et Tal qui ont trouvé que tout d'un coup, il y avait une chute d'un facteur 6 en optique et rayons X de ce quasar entre 2000 et 2010. Lorsqu'on voit en 2001, c'est une raie très large, Hα, Hβ, et vous voyez qu'en 2010, tout d'un coup, on n'a que des raies étroites, donc la zone de BLR. Alors, on pense que dans un temps aussi court, le gaz qui est dans cette région de Raylarge n'a pas le temps de partir. Il est toujours là, mais si la luminosité du centre a diminué, il n'est plus excité, donc il ne peut plus émettre de ses raies. Et donc tout ce qui est dans les Raylarge est toujours caché, mais il est silencieux en quelque sorte. Il n'est plus éclairé. Il n'est plus éclairé et plus excité. Alors de même, la question se pose, hein, quand on change de look de 1 en 2, est-ce qu'il y a de l'absorption ? Eh bien, il n'y en a pas. Vous voyez ici la luminosité haute, l'état haut de quasar, ici l'état bas. On a toujours, en rayons X, mou ou dur, on a le même spectre homothétique. On ne fait que baisser en luminosité, mais on n'absorbe pas plus les X mous que les X durs, donc ce n'est pas de l'absorption. On passe d'un état où le rapport d'Eddington était de 4%, donc quelque chose qui émet beaucoup. Quand on veut passer sur un ADAF qui n'émet pas beaucoup, il faut avoir 1% environ. Et donc là, on chute dans un état de faible luminosité où il n'y a plus de Raylarge. Alors, le possible mécanisme pour expliquer cela, on pense tout de suite à une étoile qui arrive. Et en effet, pour celui-là, ça marche à peu près. La décroissance en fonction du temps correspond à celle qu'on attend avec une étoile qui a été détruite par effet de marée et avalée. Ça a été modélisé et on a la température qui correspond et par Merlani et Tal. Donc finalement, combien d'AGN qui changent de look a-t-on regardé ? En fait, on en a quelques-uns, ce n'est pas énorme, quelques-uns proches, et puis un peu plus grand redshift, on a quelques quasars. On pense que les télescopes futurs, comme le Vera Rubin, dont on a déjà parlé, qui vont regarder toutes les nuits, toutes les variations, vont en détecter beaucoup plus. Car pour avoir ces objets-là, il faut un temps énorme pour regarder jour après jour, sur 30 ans, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément. Mais avec ces télescopes-là, on va pouvoir apprendre beaucoup plus et en avoir un grand nombre de statistiques. Alors, l'interprétation qu'on a fait Elitzur, par exemple, est une interprétation qui va un peu à l'encontre de l'interprétation par obscuration, c'est que la luminosité est très reliée au type, en fait, beaucoup plus que ce qu'on pensait auparavant. La luminosité est évidemment le taux d'accrétion qui est responsable de la luminosité. Donc, ce que vous voyez ici, c'est corrélation entre la luminosité totale du quasar et la masse du trou noir. Vous voyez qu'il y a une relation un peu empirique en fonction de la masse à une puissance de tiers. Et lorsque vous le mettez en fonction du rapport d'Eddington, donc luminosité sur luminosité d'Eddington, eh bien vous avez quelque chose qui s'étale. Alors ce qu'on voit en carré, ce sont les types 1, les CFR1. Ce qu'on voit en étoile, c'est les types intermédiaires, 1.2, 1.5. Et puis les plus bas, c'est 1.8, 1.9 et 2. Donc on voit qu'il y a un très bon échelonnement en luminosité de tous les types. Donc on a... une des caractéristiques des types, finalement, n'est pas seulement l'obscuration, mais c'est surtout le taux d'accrétion et la luminosité du trou noir qui déterminent un peu ce type. Finalement, cette interprétation est quand même assez étayée par les observations. Alors, il y a des cas quand même assez exceptionnels, par exemple celui-ci, qui s'est aussi réveillé récemment. Il était CFR2, puis il devient CFR1. Et normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dureté des rayons X est inversement proportionnelle à la luminosité. Donc c'est lorsque on est dans un état bas de luminosité qu'il y a des rayons X durs. Et puis lorsqu'on est dans un état haut, le disque est un très bon radiateur et on a un rayonnement thermique. Eh bien, celui-ci, il y a une exception à cette loi. C'est que lorsqu'il était très haut en luminosité, eh bien, il y a eu encore des X très durs qui sont produits, c'est-à-dire non seulement un rayonnement de corps noir. Alors, vous voyez, lorsqu'on rayonne efficacement, on a un disque mince qui émet comme un rayonnement de corps noir, une luminosité en T4. Et puis, les X durs, c'est une loi de puissance qui est due au Compton inverse des électrons d'une couronne. Et on a cette loi de puissance différente de ces deux types de rayonnement. Et puis, lorsque il a encore cru de luminosité, vous voyez qu'il est passé d'ici à là, tout d'un coup, ces rayons X durs se sont réveillés. Alors on pense que peut-être il y a eu un vent comme de toute façon, on commençait à être à la luminosité d'Eddington, on a eu un vent ici. Alors, il y a eu beaucoup de choses assez curieuses dans cet objet. Cet objet a un trou noir qui est assez faible, 10^6, 10^7, donc tout varie plus vite. On a une région de ray large qui est à 5 jours-lumière seulement, et on a même des variations sur des temps qui sont de l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très près du trou noir, et le trou noir est assez petit. Et lorsque on a regardé le rapport entre l'émission des X durs, qui sont des émissions de power law ici, loi de puissance, et puis thermique, mais on voit bien qu'à faible luminosité, donc on a le rayon X dur qui domine, et puis à forte luminosité, c'était le contraire. Et puis on a eu cette exception ici, sans doute due à la luminosité d'Eddington. Donc on a un vent qui sert un peu de couronne, et donc la couronne s'est détruite et puis se reforme. Donc vous voyez que c'est quand même assez complexe et que chaque objet a une interprétation très particulière. Ici, l'interprétation, c'était qu'en effet, une étoile a été avalée, elle a détruit toute la couronne et puis la couronne s'est reformée par un vent de grande activité du noyau. Alors, ici, on peut simuler aussi dans les modélisations de Noda et Hendon, ils ont simulé la chute du taux d'accrétion. Ici, vous avez, dans un cas général, une luminosité d'Eddington qui passe autour de la valeur critique de 1%. Ici, c'est 8%, c'est un état assez lumineux. Et puis, on tombe en dessous d'1%. Donc, on passe de Seyfert 1 à Seyfert 2. Et donc, ces rayons de X mou qui sont ensuite réénergisé par la couronne ici, en rayon X dur. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de simuler ici. Et vous voyez le résultat. Par exemple, pour Mercarian 10-18, ils ont montré qu'en effet, en 2008, on avait une très forte proportion de X mou, donc du disque de thermique, de rayon X ici. Et puis tout d'un coup, on a l'impression que le disque disparaît et qu'on n'a plus que les X durs de la couronne. Alors pourquoi ? Il y a quand même un gros problème. Est-ce que le disque disparaît ? On dirait, puisque le disque d'accrétion, ce n'est pas comme la BLR. La BLR reste là, elle est plus ou moins illuminée, mais le disque d'accrétion, lui, il devrait disparaître si on ne le voit plus. Il disparaît un petit peu, et il y avait un gros problème de la vitesse à laquelle il disparaît. En fait, il y a une onde de chauffage qui est due au trou noir central, une onde de choc. Et cette onde de choc, de chauffage ou refroidissement, elle se propage à la vitesse du son. La vitesse du son est beaucoup plus élevée. On pense que c'est parce que la pression de radiation est bien plus forte que la pression du gaz. Et ça donne une vitesse du son plus élevée, en plus avec une pression magnétique assez forte, en B au carré. Et ces deux aspects font que la vitesse du son est plus élevée et l'onde de choc va disperser le disque beaucoup plus vite que l'on croyait. Et donc c'est ça l'interprétation des observations, puisqu'on observe exactement ce genre de comportement. Alors, d'autres cas sont beaucoup plus visibles aussi, ont été observés en beaucoup de longueurs d'onde. Ici, le cas de 26-17. Vous voyez que la BLR apparaît en 2013, puis ensuite elle devient de Seyfert 2 à Seyfert 1. Et on le voit en fonction ici des X, des UV et puis des RE, on voit le retard, c'est un petit peu comme une carte de réverbération. On a l'impression qu'on voit à quel rayon se passent les choses. Ici, vous voyez une raie large en 2013, alors qu'en 1994 et même 2003, on n'avait qu'une Seyfert 2. Donc on a eu une Seyfert 1 tout d'un coup. Et puis le retard, la succession entre X et UV se fait en 2-3 jours ici, et en infrarouge, plus loin, 6-9 jours. Donc ça, c'est la dimension des rayons en jour-lumière que vous pouvez en déduire de ces observations. Un cas vraiment très particulier qui nous fait apprendre encore autre chose, c'est cette galaxie qui est une Seyfert 2, qui a un tout petit trou noir, 4^10^5, c'est à la limite des trous noirs supermassifs, et qui, en 2010, son émission X a été multipliée par 240, ce qui paraît vraiment exceptionnel, le redshift est assez proche, mais il n'y a pas eu de BLR, en fait. Donc, c'est toujours resté une Seyfert 2 qui a augmenté énormément en puissance. Et ce qu'on s'est aperçu, parce qu'en 2018, certains, la Minute et al., l'ont observé pendant 54 jours pour voir ces variations. Et surprise, il y a des variations qui paraissent quasi-périodiques. On le voyait ici, hein, en rayons X à mou, de 0,5 à 2 kV. Il y a des sursauts qui durent une heure, et puis ensuite, entre deux sursauts, 9 heures. En fait, ce n'est pas tout à fait périodique, puisque la période s'accroît lorsque l'amplitude descend. Et on le voit ici en rayons X de Chandra, on a aussi ces pics. Donc c'est quelque chose qui est très 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 curieux, qu'on n'a pas très vu. Ça fait penser quand même à ce qu'on appelle des oscillations quasi-périodiques, aux QPO, pour les binaires dont on a parlé dans un précédent exposé. Mais cette fois-ci, c'était des périodes de l'ordre de Hertz, donc la seconde, etc. Ici, c'est des heures, 9 heures, évidemment, c'est dû à la masse beaucoup plus grande. Et donc, peut-être, comment on peut interpréter ce genre de choses ? Eh bien, quand on regarde avec cette masse-là, si on se place à une distance du noyau d'une unité astronomique, à ce moment-là, on a une vitesse de 20 000 km par seconde, et on a une période de Kepler autour du noyau de 9 heures à peu près. Donc, il peut que ce soit des petits nuages qui tombent, qui vont bientôt rentrer dans le disque d'accrétion et que l'on voit ici. Alors, quand on regarde ces événements, c'est quasi-périodique, hein, même sans BLR, on voit ces sursauts. Il y en a beaucoup plus dans les X durs, qui sont en bleu ici, alors qu'en vert et rouge, c'est beaucoup plus... Et lorsqu'on les normalise à 1, on voit qu'il y en a qui sont en avance par rapport aux autres. Donc c'est bien un échelonnement en fonction de l'énergie. Et c'est très peu variable pour les énergies très faibles. Donc on suppose qu'en UV optique, etc., on ne verra plus rien. Alors maintenant, on peut essayer de caractériser les galaxies hôtes de ces changements de look. Est-ce qu'elles sont bizarres ? Est-ce qu'elles ont... On peut suspecter en regardant une galaxie qu'elle va changer de look. Eh bien, ce n'est pas tellement évident. Alors ici, on a essayé de les classer en fonction de la séquence principale des galaxies qui forment des étoiles. Vous avez ici la masse des étoiles d'une galaxie et ici le taux de formation d'étoiles. Quand on a en grisé, c'est les galaxies totales, les milliers de galaxies qui sont représentées, on a une séquence principale, c'est-à-dire le taux de formation d'étoiles est proportionnel à la masse d'étoiles. Ça, c'est assez logique. Plus une galaxie est grande, plus il y a une formation d'étoiles. Donc la séquence principale des galaxies bleues qui forment des étoiles est là. Et puis vous avez une séquence qu'on appelle la séquence rouge, c'est les galaxies passives, comme les galaxies elliptiques, qui ne forment pas d'étoiles pour la même masse donnée. Et on a des galaxies en transition au milieu des deux, là, qui doivent passer très peu de temps, puisque finalement, il y a un goulot d'étranglement. Et les points bleus, ce sont les galaxies qui changent de look. Elles se trouvent justement dans les transitions. Donc ce qu'on appelle la vallée verte, ici on appelle ça la séquence bleue, la séquence rouge, et au milieu il y a la vallée verte. Elles sont toutes dans la vallée verte. Ici on a la même séquence mais avec des AGN. Vous voyez qu'on n'a pas exactement la même que pour toutes les galaxies, mais ces bleues là, elles sont toujours en bordure de l'essentiel des AGN. Donc ce sont des galaxies spéciales quand même, même lorsqu'on les regarde dans leur entièreté, pas seulement le centre, mais le disque, etc. On a des galaxies qu'on pourrait... délimiter celles qui vont être changement de look. Ici, on a aussi des indices spectraux de la ray H delta et de la ray équivalente, la largeur équivalente d'H alpha. Et on voit que, bon, ici, il ne se passe pas trop grand-chose, mais elles ne sont quand même pas dans le pic des autres galaxies. Il y a une autre façon de les caractériser. C'est à peu près l'âge de la population stellaire, qui est un indice qu'on appelle DN, qui est un saut dans le spectre à 4000 angstroms. Alors, est-ce qu'elle se distingue des autres ? Dans ces trois diagrammes, pas tellement. On a la masse du trou noir et cet indice-là. Ça semble être dans l'ensemble. Par contre, ici, il y a l'asymétrie. Donc, vous voyez que les points jaunes sont toutes les galaxies qui sont très asymétriques parce qu'elles sont en interaction, donc avec des queues de marée, etc. Mais les changements de look ne sont pas asymétriques. C'est-à-dire que ce n'est pas l'interaction de galaxies qui va vous provoquer ça. Donc on pense que c'est plutôt le gaz va venir vers le centre dû à l'évolution séculaire, donc peut-être des barres, des spirales, etc. On s'est aussi intéressé, est-ce qu'elles ont des bulbes plus massifs ? Donc on a un indice de Cercic qui vaut 1 pour des disques exponentiels, équivaut 4 pour des bulbes de galaxies, ou des galaxies spirales qui ont un gros bulbe. Et on voit que ces galaxies-là ont plutôt un gros bulbe. Donc ces galaxies qui changent de look ne sont pas vraiment des disques exponentiels sans bulbe, mais sont de type un petit peu précoce. Et enfin, on peut se demander, est-ce qu'on a regardé les X, l'optique, l'infrarouge, est-ce qu'en radio, on voit beaucoup de variations? Alors, en général, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les jets radio sont des lobes qui sont très, très, très grands, des kiloparsecs, jusqu'à 100 kiloparsecs. Par contre, il y a des jets très jeunes. Alors, on les appelle, ces jets très jeunes, les jets radio. Ils piquent, leur émission synchrotron pique à une fréquence très haute, qui est le gigaparsec. Donc on les appelle gigaparsec peak source. C'est vraiment pour dire que c'est des sources qui piquent très haut. Alors qu'est-ce que c'est que ce pic en fait, synchrotron? C'est dû à l'absorption, la auto-absorption du synchrotron. Lorsque le jet est très petit, très dense, il va absorber beaucoup plus. Donc l'absorption va se décaler à haute fréquence et va se décaler à plus basse fréquence lorsque le jet sera plus étendu. Vous voyez, par exemple, un jet en 2016, il était très jeune, avait une fréquence de pic assez élevée, et puis en 2019, il va se décaler, le pic va se décaler vers les basses fréquences. Donc on peut distinguer, en regardant juste le spectre, et la fréquence à laquelle pique le spectre synchrotron, est-ce que le jet radio est jeune ou pas. Donc on a ces deux catégories de jets jeunes, et ce sont ceux-là qui varient évidemment, puisqu'ils sont très près du trou noir. Donc quand on regarde le rapport d'Eddington et puis le rapport entre l'énergie dans le jet et l'énergie totale, on voit que ces galaxies qui changent de look, elles ne sont pas du tout dans la séquence des autres. Ici, vous avez, par exemple, en fonction de la taille, alors la taille, on voit que les sources jeunes radio sont de petite taille, elles vont évoluer vers les galaxies radio de grande taille qu'on trouve ici. Donc ça, l'évolution, c'est dans ce sens. Et finalement, tout ce qui varie, ça se trouve avec une faible luminosité. Évidemment, ce sont des petits jets très jeunes, qui ont une très faible luminosité et qui sont très petits. Pas la grande taille ni les grandes luminosités. Donc on arrive à quand même voir des variations sur 5-20 ans des jets radio, mais lorsqu'ils sont très très jeunes. Donc en fait, je vous ai montré qu'on avait quelques cas, mettant une dizaine ou une vingtaine de cas qui changent de look. C'est en progression. Récemment, en 2018, on a eu 21 nouveaux cas. Grâce à ces télescopes qui sont des précurseurs du télescope Vera Rubin, on a parlé du Zwicky Transient Facility en Californie, etc. Donc on arrive à doubler le nombre de cas connus et bientôt, on pense qu'on pourra en avoir peut-être des centaines et faire une connaissance beaucoup plus grande de toutes les activités du noyau. Donc, je terminerai en résumant un petit peu tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Les changements rapides de look entre type 1, type 2 et type 1, même à quelques dizaines d'années, montrent que l'obscuration, contrairement au paradigme d'obscuration pour unifier les AGN, ne sont pas le seul facteur. Il y a aussi un grand facteur qui est le taux d'accrétion du trou noir et qui est maître de la luminosité. Et on voit qu'il y a une séquence en luminosité et qui correspond au type. Donc certainement, c'est un gros facteur, il ne faut pas l'oublier, bien que l'obscuration joue aussi un grand rôle. On a vu que la vitesse de changement est bien plus rapide que celle de temps de chute de Lib. Ça veut dire que la zone de gaz qui est dans la zone de ray large ne va pas bouger. Et ce qui va arriver dans ces changements de look, c'est que le noyau étant si peu lumineux, il ne va plus éclairer cette zone qui est toujours là mais qui n'a pas le temps de bouger et tout d'un coup elle sera dans l'étape suivante rééclairée et réexcitée. Donc il y a des instabilités qui nous permettent d'expliquer des petites variations sur quelques jours. On a vu que dans une descente de CFR1 à CFR2, on avait des sursauts de 10 jours et ça c'est les instabilités qui nous permettent de faire ça. Et donc toutes ces instabilités, ces variations, etc., sont une grande richesse pour connaître mieux la structure à petite échelle des noyaux actifs et de tout ce qui se passe autour. Donc je vous remercie.